Vous entrez dans les ateliers de la nuit. On prend l'air, on inspire et on se met debout. La bouche ouverte est prête, offerte aux mots. Ils peuvent venir, le corps se donne, il est debout. Debout comme Bernard Heitzig, poète sonore, poète en action, poète qui a mis la poésie debout, qui l'a détachée de l'imprimé, des pages figées et qui s'est mise à la parler, à la lancer dans l'espace. Anne-Laure Chamboissier lui consacre un film, co-réalisé avec Philippe Franck. Heitzig, figure centrale d'une poésie contemporaine, est manifestement assez magnétique parce que le film rassemble de nombreux artistes qu'il évoque avec chaleur. On prendra aussi l'air à Rennes, dans la deuxième partie de l'émission, où était installée Éotone, une œuvre qui fait entendre le vent qui souffle des deux côtés de l'Atlantique. Un de ses co-auteurs, Hermann Kolgen, nous présente Éotone et sa partition sonore. Mais d'abord, aux côtés de Thomas Baumgartner, on se présente dans l'atelier du son.
Qui je suis ? En une minute et demie ? Mais enfin, c'est impossible. À moins que, après tout, je ne sais pas, je pourrais dire oui, bien sûr, oui. Je pourrais dire que ma carte nationale d'identité, qui a été délivrée par la préfecture de Paris, porte le numéro 80578. Et quoi d'autre encore? Je ne sais pas. Oui, peut-être ma carte d'électeur, qui, elle, porte le numéro 0556 et qui a été délivrée lors des dernières élections. Et puis quoi d'autre? En une minute et demie, je ne vois pas beaucoup de choses à vous dire, sinon peut-être ma carte de l'association Polyphonix, dont j'ai été le président à un moment donné et qui, elle, porte le numéro 63. Également ma carte d'assuré social, qui, elle, porte le numéro 1, 28, 11, 75, 117, 198, 18.
Bonsoir à vous, bienvenue dans l'atelier du son. C'est bien à Bernard Heitzig qu'on consacre le début de l'émission de ce soir, à l'occasion d'un film, Bernard Heitzig, la poésie en action, d'Anne-Laure Chamboissier et Philippe Franck. Film qu'on trouve avec un livre ces jours-ci, un livre intitulé « Poésie action, variations sur Bernard Heitzig », coédité par le Centre national des arts plastiques et après édition. Bernard Heitzig, poète sonore, parmi les pionniers, qui déclinait son identité comme on vient de l'entendre. Un poète en avance sur les usages poétiques de la technologie et qui a désiré très tôt actualiser la pratique poétique, c'est-à-dire la mettre en accord avec le progrès, les mots et les bruits de son époque. C'est par là qu'on commence la conversation avec Anne-Laure Chamboissier, historienne d'art et donc co-auteur du film. Heitzig, inventeur de son art.
Oui, historiquement, donc, on considère Bernard Heitzig comme un des pionniers de la poésie sonore, donc avec trois autres personnes qui sont Henri Chopin, François Dufresne, on pourrait même dire François Dufresne le premier, puisque c'est lui qui utilise la bande magnétique en premier, et puis une autre figure américaine importante qui est Brian Gysing. Mmh. Voilà. Et assez rapidement, Bernard Heitzig préférera effectivement le terme de poésie-action à poésie sonore.
Poésie debout même, c'est ce
poésie
qu'il dit dans
debout,
le film.
Voilà. Oui. Mettre, parce que pour lui, ce qui était très important, c'était de mettre la poésie
en mouvement.
En mouvement.
Face à un public, enfin, il y a la question de la performance.
Alors, bon, lui, je ne pense pas, il aime vraiment ce terme de
oui.
performance.
Oui, faut faire attention au mot performance. C'est-à-dire, on va dire prestation publique, voilà, pour ne pas rentrer dans une autre histoire de l'art. Mais dans le sens invention, ce qu'on entend dans le film et dans les rencontres que vous faites, puisqu'on voit Bernard Heitzig évidemment parler dans votre film, vous l'avez interviewé, Anne-Laure Chamboissier. On aurait bien aimé avoir quelques mots de lui ce soir, mais bon, ça n'a pas été possible. Mais c'est qu'il y a eu cette nécessité pour lui de mettre cette poésie debout.
De sortir la poésie de la page,
ouais.
donc de la mettre debout. Alors ça part, en fin de compte, ça part d'un événement important pour lui, qui est en fin de compte le domaine musical, hein, puisque dans les années 50 sont organisés le domaine musical qui avait été créé par Boulez. Et lui-même déjà avait déjà rédigé et publié un petit livre chez Segers de poésie, mais qui restait dans quelque chose d'assez... d'assez classique,
traditionnel, ouais,
d'assez
voilà.
traditionnel. Et puis, il va à un concert de Stockhausen.
Donc, au domaine musical. Au domaine musical. C'est quoi ? Ce sont des suites des séries de concerts, c'est ça, le domaine musical.
Voilà. C'est des soirées de concerts. Et c'est surtout l'occasion pour les gens de découvrir à la fois toute une nouvelle génération de compositeurs. Bon, on parlait de Boulez, mais on peut parler de Stockhausen. Et là, en l'occurrence, il s'agit de Stockhausen, puisqu'il se rend à un concert, le chant des adolescents de Stockhausen. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il entend ? Une musique sans musicien.
J'ai fait avec passion les concerts du domaine musical, n'est-ce pas ? Qui étaient organisés à partir de la fin des années 50 par Boulez. Et c'est là où j'ai entendu pour la première fois la première œuvre de musique électronique qui était le chant des adolescents de Stockhausen. Quand on entend ça pour la première fois, c'était vraiment stupéfiant, n'est-ce pas ? Je me vois encore dire à mes adjoints à la banque le lendemain matin, quand je suis arrivé, oh, écoutez, j'ai eu un concert absolument extraordinaire, une musique sans musicien, enfin, qui tourbillonne, qui vous envahit complètement dans la salle, c'était fabuleux. Donc je revenais de chacun de ces concerts, réconforté en quelque sorte, parce que je me disais, mais c'est formidable, c'est inouï. La poésie a 50 ans de retard par rapport à ce que j'entends là dans la musique, n'est-ce pas, cette révolution complète. C'est exactement ce que la poésie, sans basculer dans la musique, doit arriver à faire.
Et de là part toute une réflexion sur comment penser la poésie et surtout comment penser la poésie autrement.
Comment penser la poésie de manière contemporaine, comment la penser par rapport au monde, à ce qui se passe autour, grosso modo. Et on comprend qu'il y a un engagement politique de la poésie de Bernard Haitink dans son époque. Je pense à sa compagne Françoise Janicot, que vous rencontrez aussi, et qui en parle aussi comme ça dans le film.
Oui, qui en parle. Par contre, de la part de Bernard, le mot politique n'est jamais employé. Hein. Ça, je pense que c'est effectivement important de le souligner, parce qu'en même temps, effectivement, je dirais, il y a un engagement sociétal. Surtout, c'est un observateur de ce qu'est la vie quotidienne.
Une chose qu'on entend aussi dans le film, dans ce film autour de Bernard Haitink, que vous avez co-réalisé, La poésie en action, c'est qu'il a travaillé. Il a travaillé toute sa vie. Bernard Haitink. Quand il va au concert du domaine musical, qu'il fait cette découverte de Stockhausen, dans le film, il dit « J'en ai parlé à mes adjoints à la banque le lendemain. » Ah oui, c'était un banquier, Bernard Haitink.
Oui, c'était effectivement... Il travaillait à la banque, c'était un banquier et c'était quelqu'un, par contre, d'extrêmement organisé. Il y avait sa vie en tant que banquier et puis il y avait sa vie en tant qu'artiste et jamais un domaine ne rentrait dans l'autre domaine.
Ce cloisonnement, d'ailleurs, se faisait aussi, le passage de l'un à l'autre, le passage de la cloison se faisait par un sas.
Oui. Il s'avère qu'effectivement, il y a quelques mois, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de raconter cette anecdote, Bernard, mais sa fille, une de ses filles, Nathalie Haitink, me racontait que quand il rentrait justement de la banque, avant qu'il puisse passer dans cette autre vie, souvent, il réalisait un jeu de cartes, une réussite, avant effectivement de pouvoir rentrer dans cette autre vie.
Il se trouve que j'étais là à la banque depuis 7 ans et je me disais, je tiendrai le coup, dans cette banque si j'arrive à faire un poème sur la banque, comme ça.
Bernard est de ceux qui, comme Apollinaire, comme Kafka, comme des milliers et des milliers d'autres hommes et femmes, avaient une double vie. Apollinaire a travaillé dans un journal, Kafka a travaillé dans une compagnie d'assurance, etc., etc., etc. Bernard, lui, travaillait dans une banque.
Il y a eu, en quelque sorte, l'illumination. Je me suis dit, mais dans le fond, c'est extrêmement simple. Je vais juxtaposer un texte de pure technique bancaire, n'est-ce pas, incompréhensible pour les autrui, mais qui, moi, était le langage courant que j'utilisais tous les jours dans mon travail avec ma clientèle. Et je vais mixer ça avec des extraits des textes des poèmes partitions que j'avais réalisés depuis 1955.
Poèmes partitions B2, B3 ou exorcisme.
Tonton. Oui, voilà. La mobilisation, voyez-vous, la mobilisation d'une créance née sur l'étranger consiste en une avance sur facture ou sur traite, simple ou documentaire, à vue ou à usance. Elle bénéficie de la Banque de France à court ou moyen terme d'un taux de rescompte privilégié. La négociation de cette correspondant créée à 90 jours maximum, mais éventuellement renouvelable, étant sous certaines conditions admissibles au marché monétaire hors plafond. Il va correspondre qu'à sortie de ces privilèges non négligeables, un tel crédit ne saurait échapper aux règles générales dont s'inspire l'Institut d'émission lorsque son accord de rescompte est sollicité.
Est-ce qu'on peut parler de fascination pour la machine en tant qu'objet, sachant que ce n'est pas quelqu'un de la technique, de la technologie, on va dire, Bernard Haïti.
Oui, une partition sur la lettre A.
Mais néanmoins, il fait partie des pionniers qui ont utilisé, bah, vous le disiez, avec François Dufresne, de la bande magnétique. Enfin, il y a un intérêt quand même pour la technique elle-même.
Ah oui, il y a un intérêt, mais il y a un intérêt effectivement comme outil qui permet justement d'aller un peu plus loin dans l'expérimentation. Et il est clair que la poésie n'aurait peut-être pas pu sortir de la page s'il n'y avait pas eu cette technologie en question. Le premier à utiliser quand même le magnétophone, c'est François Dufresne, hein, en 56, avec ses cris rythmes. Hein. Et ça a beaucoup impressionné Bernard et Isaac. Et Bernard Isaac était très proche, hein, de François Dufresne. Donc la technologie, effectivement, permettait de nouvelles expérimentations et permettait d'aller un peu plus loin dans ses recherches, comme l'ont permis le Revox aussi. Ce qui rend aussi très difficile, finalement, pour une jeune génération, de pouvoir s'emparer de la matière textuelle de Bernard Isaac, puisque beaucoup de ses textes reposent à la fois sur une multiplication de sa voix qui passe par la machine.
Il y a une partition, il y a des partitions, des pièces de Bernard Haïti, ouais. On peut les regarder, on peut les lire, mais c'est vrai que c'est une expérience qui est radicalement différente que celle de soit les entendre, soit les voir projeter, pour ne pas parler de performance, mais voir une prestation de ces pièces-là dans
oui,
un espace.
Et puis toute une jeune génération qui voudrait s'emparer de ces textes, par exemple, c'est impossible, puisque quand on entend les enregistrements, effectivement, cette double voix, c'est sa voix à lui. Alors, il y a effectivement, à part les premiers poèmes partitions et le dernier travail qu'il a fait, à un moment donné, on en parle dans le film, justement, de cette question-là. Et on en parle avec lui, parce que se pose aussi la question, d'une certaine manière,
de la postérité.
De la postérité. Mmh. Et puis surtout, voilà, finalement, qu'est-ce qu'il restera de ce travail? Il restera. C'est pour cela que la question de l'édition et tout le travail que Laurent Coué a fait est essentiel.
Oui, mais vous abordez d'ailleurs cette question-là dans ce film, donc, que vous avez co-réalisé, Anne-Laure Chamboissier, Bernard Haïtic, La poésie en action, que vous avez co-réalisé avec Philippe Franck et avec Gilles Couder, en parlant de ceux qui ne sont pas de la génération de Bernard Haïtic, voire l'ont vu peu en prestation même, mais qui se placent d'emblée dans sa lignée, et je pense à Anne-James Chaton. Il fallait qu'il soit dans le film, et bien il y est.
Bah, oui, il y est, parce que, bon, parce qu'il y a une relation... une relation très proche entre les deux, hein, que, entre guillemets, Bernard Isaac le considère un peu comme son fils spirituel. Mmh. Et en même temps, James le dit très justement dans le film, c'est-à-dire que c'est une autre époque et les moyens techniques aussi se sont extrêmement développés.
Est-ce que c'est pas ça d'ailleurs, Chamboissier, qui peut rendre la compréhension du choc de la poésie de Bernard Haïti plus complexe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entendre quelqu'un qui dialogue ou qui parle sur sa propre voix en temps réel peut paraître quasiment une forme de base dans les performances multimédia, mais imaginez ça saisi comme ça par un poète debout sur une scène au milieu des années 60, par exemple, ça, c'est quand même... Y a la chronologie fait que ça peut troubler la compréhension de l'œuvre, non?
Alors, ça peut peut-être troubler la compréhension de l'œuvre, mais surtout, ça souligne à quel point ce travail est éminemment contemporain, ouais, encore. Ouais. Voilà, parce que ce que je pense qu'on a essayé de faire avec Philippe, modestement, c'est aussi, c'est pas seulement de faire de ce film un hommage à Bernard Heisig, mais de montrer effectivement à quel point le travail de Bernard Heisig reste éminemment contemporain.
À quel point il avait anticipé, en fait, une forme d'écriture.
Qu'il avait effectivement anticipé une forme d'écriture et que ça reste un travail extrêmement vivant.
Passe-partout numéro 22.
Autour de Vaduz, il y a des Suisses. Autour de Vaduz, il y a des Autrichiens. Autour de Vaduz, il y a des Allemands. Il y a autour de Vaduz des Tyroliens.
Il y a des Saxons.
Il y a autour de Vaduz des Bavarois. Il y a autour de Vaduz des Siléziens, des Tchèques. Il y a autour de Vaduz des Slovaques. Il y a autour de Vaduz des Magyars.
Il y a des Slovènes.
Il y a des Ligures, des Vénitiens.
Vous écoutez l'Atelier du son, Thomas Baumgartner sur France Culture.
Il y a des Savoyards.
Tout autour de Vaduz, on l'entend et on le voit en prestation. Donc ça, ça fait partie des richesses. Et une des autres richesses du film, c'est de voir qu'on ne parle pas d'un poète seul sur son piédestal réel ou imaginaire. C'est quelqu'un, on sent un magnétisme. Alors, je ne sais pas s'il rassemble autour de lui, mais avec lui, beaucoup de monde. Et c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il y a beaucoup de monde dans le film, par la force des choses.
Il y a beaucoup de monde dans le film, mais c'est important de souligner que les gens qui sont présents dans le film, c'est des gens... dont Bernard souhaitait leur présence. C'est-à-dire que c'est un film qui s'est fait, c'est un film sur Bernard Heisig, mais c'est un film qui s'est fait avec Bernard Heisig. Et ça, je tiens vraiment à le souligner, parce que c'est très important. C'est-à-dire que chaque étape du travail s'est fait avec lui.
Et vous l'avez d'ailleurs attendu à un moment donné, parce qu'il a été malade pendant la fabrication du film, et donc vous l'avez attendu pour continuer la fabrication du film.
Voilà.
Un autre intervenant d'ailleurs, c'est Olivier Cadiot, dans le champ de la littérature contemporaine, il intervient dans le film, qui est aussi un homme de performance, un homme en tout cas de voix projetée dans l'espace, et puis qui est un homme de l'écrit évidemment.
Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui se situerait comme un homme de performance. Bon, ce qui est clair, c'est que il peut être un véritable performeur, tout à fait. Alors en même temps, on pourrait dire, Heisig Cadiot, c'est très très loin. On est très loin, on est vers deux univers très loin, mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une vraie proximité entre eux, et que je trouve que l'éclairage qu'apporte Olivier sur Bernard Heisig est aussi extrêmement intéressant.
Intéressant, et c'est très beau.
Oui.
Paradoxalement, je pourrais presque dire que c'est un écrivain réaliste. C'est-à-dire, au bout du bout du bout, on a l'impression d'avoir une sorte de Balzac de la vie contemporaine aussi. C'est-à-dire que ça donne des renseignements très profonds, très précis sur des parlers et des situations. C'est des documentaires aussi, c'est ça que je veux dire. C'est curieux. C'est pas des pièces abstraites du tout.
Joseph Cazura.
J'aime bien aussi certainement cette manière de travailler. Je pense que ça serait pas intéressant pour lui de travailler sur des samples et de les raffiner. Ce qui était très beau, c'est cette brutalité aussi de la prise. De la mise en je sais pas, c'est un match de tennis entre des éléments, quoi. C'est dur, ça tape, mais à l'intérieur de ça il trouve son champ d'expression et il s'amuse. Il y a tout à coup un personnage qui s'anime et il y a un narrateur.
Comment pouvait-il bien s'appeler?
Et à un moment donné il utilise cette formule en disant, c'est une sorte de, bon, je ne sais plus le terme exact, mais un peu, c'est un peu une sorte de Balzac de la vie contemporaine. Donc il le place, voilà, encore plus du côté de l'écrivain. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette question de l'écrivain, elle est aussi posée par quelqu'un comme Arnaud Labelle-Rejoux.
Je voudrais qu'on revienne sur ce terme de balzacien. Ça veut dire quoi? Il faut préciser les choses. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui saisit les signes, les flux du monde pour en faire une écriture.
Pour en faire une...
Le monde qu'il habite lui-même.
Oui. Alors oui, pourquoi balzacien? Parce que bon voilà, Balzac a passé toute sa vie effectivement à nous relater que c'était la société de son époque.
Les rapports de classe.
Les rapports de classe.
Quel récit sacré.
Voilà. Et Bernard Heisig, par cet exercice de biopsie, hein, de prélèvement, hein, il n'a fait que prélever comme ça certains moments de vie, hein, ou certains caractères plus particuliers de la société.
Alors ça, c'est le poète dans le monde qu'il observe et dont il fait matière pour son œuvre. Et puis, il y a le poète dans, on va dire, dans sa société, ses amis, ses pairs, ses homologues. Et ça aussi, vous le montrez dans le film. Et vous citez, vous l'avez dit, Brian Gysin, William Burroughs. Le nom William Burroughs apparaît aussi. Henri Chopin, François Dufresne. Vous parlez des nouveaux réalistes aussi. Il y a Viglet, Jacques Viglet, qui est cité. Et voilà quelqu'un d'autre qui prend là des morceaux, des lambeaux de la société pour les coller.
Mais François Dufresne a fait aussi partie des nouveaux réalistes. Mmh. C'est-à-dire que peut-être on connaît plus l'aspect de François Dufresne en tant que nouveau réaliste qu'on ne connaît l'aspect de François Dufresne en tant que poète, pour beaucoup de gens. Oui, alors effectivement, voilà, il est très proche de beaucoup de gens, hein, entre autres des gens de la Beat,
oui. Hein, Brian Gysin, William Burroughs, la Beat Generation.
Voilà. Ouais. William Burroughs, et puis il y a une figure importante avec qui il entretient une amitié et qui est présente dans le film, qui est John Giorno. Alors, pour la petite histoire, c'est quand même ce que peu de gens savent, c'est que c'est grâce à Bernard Heisig que John Giorno vient en France pour la première fois, vient à Paris, qu'il avait rencontré grâce à l'entremise de William Burroughs à New York.
Voilà, lui, John Giorno, plutôt plasticien, on va dire, et qui, effectivement, vient de New York, entourage de Warhol, et qui arrive aussi auréolé de cette chose-là à Paris.
Oui, et puis qui est dans ce travail, effectivement, d'écriture.
Et ils échangent des fax.
Ils échangent des fax.
Des rouleaux et des rouleaux de fax, voilà, ce que vous racontez.
Comme en parle Françoise un moment, Françoise Unico un moment dans le film. Non, c'est une très belle amitié, comme le souligne lui-même John Giorno, depuis 50 ans.
Voilà donc parmi les choses qu'on apprend et qu'on voit dans ce film que vous avez co-réalisé, Anne-Laure Chamboissier, Bernard Heisig, La poésie en action, co-réalisé encore une fois avec Philippe Franck et la collaboration de Gilles Couder, et qu'on trouve donc en compagnie d'un livre, Poésie, action, variation sur Bernard Heisig, que coédite le CNAP, c'est le Centre National des Arts Plastiques, avec après-édition, donc livre et DVD. Et puis on peut imaginer que le film va tourner dans les festivals où on peut espérer le voir prochainement.
On le souhaite, il y aura déjà une première date le 16 décembre à la Comédie de Reims, puisque dans le cadre du Festival de la Comédie de Reims, Olivier Cadio a décidé de consacrer toute une soirée à Bernard Heisig. Donc il y aura à la fois le film qui sera montré, mais également la performance de Laurent Pointreau, qui avait été montré dans le cadre du Festival d'Avignon, quand Olivier Cadio avait été artiste invité. Respiration et brève rencontre, qui est justement un des rares textes de Bernard qui peut, voilà, qui peut être relu, qui peut être
réinterprété,
reacté.
Ouais, réacté.
Interprété, voilà.
Et le film, il l'a bien aimé, Bernard Heisig?
Oui, on a fait une séance privée avec lui et il l'a très bien reçu. Oui.
Merci beaucoup Anne-Laure Chamboissier. Puis donc on a noté 16 décembre, c'est ça, Comédie de Reims, voilà. Cadio, Heisig, Poitrenaud, belle affiche. Merci à vous.
Voilà. Merci Thomas.
Bon, bien, bon. Parfait, parfait. Des pâtes, parfait, des pâtes, bien. N'est-ce pas? Par centaines. Bon, des pâtes et milliers et millions. Oh là là, par milliers et par tonnes, des pâtes. Eh oui, ah oui, oh combien. Tonne sur tonne, parfait. Comment? Parfait. Si, si.
Sac à nœuds. Où? Sac à nœuds. Où? Précise ta pensée. Brouiller les pistes.
Sac à nœuds. Où?
La parole est d'or.
Sac à nœuds où? Sac à nœuds où? Tu
connais? Sac à nœuds. Ce mort.
Communique, communique.
Le nombril.
Sac à nœuds où? Sac à nœuds où?
Sac à nœuds où? suivre le fil de sa pensée. Sa canne, où se où veux-tu dévorer de l'intérieur. Sa canne, où. C'est très clair. Sa canne, où. Ravaillac, où. Tu connais. Revenons en arrière. Ravaillac, sa canne. Ravaillac. Nonobstant et par conséquent. Tu connais. Sa canne. Tu connais. C'est comme ça. Tu t'égares. Sacane, où. Tu as trop bu. C'est à prendre ou à laisser. Ravaillac. Sacane, tu connais. Tu as peut-être raison. Tu caches quelque chose. Sacane, Ravaillac. Où. Ravaillac. Tu connais. Tu connais. Tu t'égares. Où en étions-nous. Ravaillac. Sacane. Où. Nonobstant et par conséquent. Ravaillac. Ah oui. Bien sûr. Tu connais. Sacane. Où. Ravaillac. L'évidence même. Tu exagères. Sacane. Où. Répète. C'est mordre la canne. Que. Ravaillac. Fichtre. Bigre. Sacane. Sacane. Où. Sac à problème. Communication. Communication. Ravaillac, tu connais.
Sur nos deux oreilles, c'est la chronique de Thomas Baumgartner dans l'atelier du son.
Parlons d'un livre tout frais sorti des presses d'Actes Sud, Bad Girl, sous-titré « Classe de littérature ». C'est le nouveau roman de Nancy Houston. C'est un livre organique, une autobiographie intra-utérine au futur. Nancy Houston s'adresse à Dorit, le fœtus qu'elle a été dans le ventre de sa mère Allison, et elle lui annonce sa vie à venir. En présentant les choses comme ça, on se trompe sans doute un peu. Il y a une citation de Roland Barthes qui clôt le récit et qui nous dit que tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman. Mais si tout est roman, ça sonne vrai. Et ça sonne, tout court. La narratrice parle donc à Dorit au futur et elle lui dit les obstacles, les déconvenus, les désillusions, les douleurs qu'elle traversera et qui seront donc ses classes de littérature. Et parmi ces douleurs, il y a la principale, le départ d'Allison, le départ de la mère au milieu de l'enfance. Une mère féministe, un peu trop tôt féministe par rapport à l'époque, et à qui on n'a pas laissé d'autre choix que de quitter ses enfants. Classe de littérature, il y a notamment cet après-midi de Fausse Harmonie, où la séparation est annoncée. Voilà ce que Nancy Houston écrit à Dorit. 90% de ton œuvre littéraire est contenue dans ce seul après-midi, un peu comme l'énergie nucléaire est compressée dans une bombe atomique. Bad Girl est un livre de l'empreinte, l'empreinte du bébé qui n'est pas encore né, qui fait corps avec la mère, qui n'est pas encore partie, l'empreinte de la mère et notamment de sa voix sur sa fille devenue femme et écrivain. Ce à quoi tu t'accroches de plus en plus, c'est le son, dit Nancy Houston à Dorit. Tes oreilles sont maintenant assez développées, elles enregistrent les battements du cœur maternel et les tiens, également de l'intérieur, transmises par les os, le sang et la chair d'Allison, tu entends sa voix tandis qu'elle parle et fredonne, rit et jure. Bad Girl, livre de l'empreinte sonore. Dans cette vie intra-utérine, le son est omniprésent et continuera de résonner. Son, rythme et mélodie seront tes cordes de sécurité, écrit Nancy Houston à Dorit, le filin dont tu te serviras pour te tracter hors des eaux glaciales de la panique et de la solitude, les cordes vocales. mais aussi les cordes frappées du piano, objet qui ramènera toujours Dorit au souvenir de sa mère quand elle sera partie. Les comptines enfantines et leurs messages à tiroir peuplent ce bad girl, font aussi le contour de l'empreinte. Nancy Houston rapproche le son et le mouvement, la musique qui scande le temps et qui nous arrache, dit-elle, à la fixité qui nous fascine et nous terrorise. Dorit, c'est le son qui la sauvera. Il n'effacera pas l'empreinte et parfois même il l'entretiendra. Il sera lui-même l'empreinte, archaïque, préverbale, pré-narrative, comme dit un pédopsychiatre dans le livre, mais il sera en amont et au cœur de ces classes de littérature qui permettront à Dorit, à Nancy, sa vie. À l'occasion du très bon festival Maintenant à Rennes, il y a quelques semaines, on a eu l'occasion de rencontrer Herman Colgan, artiste québécois très sonore, venu présenter l'installation qu'il a montée avec l'artiste breton David Le Tellier, qui était lui resté bloqué à Berlin. Cette installation s'appelle Éotone, soit un nom qui emprunte au vent, éole, et au son, tonne, ton. Éotone, une installation dans la ville, et on a d'abord demandé à Léna, chargée d'expliquer l'œuvre aux passants, de nous la présenter avant de discuter avec Herman Colgan.
Alors on est place Hoche, une place à Rennes qui est assez vide en temps normal, une place qui est assez minérale. Il y a pas mal de passages parce qu'on est entre la station de métro et les universités. Et donc c'est là qu'ils ont décidé de mettre ces quatre structures. Et du coup c'est vrai que c'est bien placé parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui passent et qui sont interpellés par ces grandes cornes de brume qu'ils ne voient pas habituellement.
Elles ressemblent à quoi ces grandes cornes de brume, vous pouvez décrire ?
Alors, elles font, je pense, 3-4 mètres de long, voire même un peu plus. Elles sont gris clair, blanches, en résine, et elles ressemblent un peu à des coques de bateau, mais fermées. Donc, elles ont vraiment ce mouvement arrondi d'une coque de bateau. Elles sont toutes lisses. Moi, je les trouve assez belles, personnellement.
Et elles bougent.
Et elles bougent, ben oui, elles bougent puisque c'est pas leur rôle, mais disons que c'est comme ça qu'elles nous donnent des informations sur l'état du vent dans les quatre villes où sont placés les capteurs.
C'est-à-dire qu'il y a et le mouvement et le son,
voilà.
Ça c'est le vent.
Alors le son représente l'intensité du vent et le mouvement de ces structures, le mouvement du vent. Donc il y a une double information qui est traitée et qui est retranscrite de deux manières différentes.
Alors comment réagissent les gens quand ils voient ça, quand ils passent ici, place Hoche, à Rennes ?
Eh bien, ils sont assez interpellés. Comme je vous dis, d'habitude, il n'y a rien ici. Donc, ça change de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Après, le public que j'ai rencontré ce matin est assez réceptif. Je trouve ça assez intéressant, surtout le fait de se dire que c'est en temps réel, en fait. Il y a juste le temps de traitement de l'information, mais que ce qu'ils ont en face d'eux est unique, puisque dans une heure, demain, la semaine prochaine, jamais les structures ne seront placées de la même manière et ne feront le même bruit. Donc ils vivent une expérience unique, en fait. Et ça, ils sont assez réceptifs, ils trouvent ça assez sympa.
Ils vous posent quoi comme question ?
Beaucoup, la question qui revient, c'est quelles données météorologiques est traduite et aussi est-ce que les structures sont placées en fonction des points cardinaux ? Beaucoup.
C'est le cas ?
Eh bien, je n'ai pas réussi à avoir l'information. J'attends que l'artiste arrive pour lui poser la question. Je ne pense pas, sinon ça voudrait dire que le vent à Nantes est en train de faire un 180 degrés. Et je ne pense pas qu'ils sont en train de vivre une tempête à Nantes. Donc voilà, c'est souvent les questions qui reviennent. Ouais.
Et c'est celui de Nantes qui bouge le plus ?
Alors Nantes bouge beaucoup, par contre, Québec fait beaucoup de bruit. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça souffle à Québec et à Montréal aussi. Donc j'ai une amie personnellement qui est à Montréal, je vérifierai ce soir s'il y a eu du vent à Montréal aujourd'hui.
Ok, merci.
Merci.
Bon voilà, les présentations sont faites. C'est alors qu'Hermann Colgan est arrivé avec ses grosses lunettes cerclées, très sympa, très bonhomme, et on s'est installé à l'abri, à quelques mètres.
Et Autumn, en fait, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé depuis 2 ans avec David Letellier. C'est un projet qui est basé sur l'énergie du vent, en fait. On avait comme mandat, parce que ça a été une commande d'œuvre au départ du festival Electronica, de relier l'Amérique et l'Europe. Et évidemment, on avait plusieurs concepts, mais le vent, pour différentes raisons, nous apparaissait le concept le plus évocateur. Et moi-même, j'avais déjà travaillé, j'avais fait une installation sonore il y a 3 ans à Séoul à partir du vent. Donc, c'était des accordéons qui étaient dans un endroit public et qui étaient tous activés par le vent de la ville. Donc, j'avais un peu cette expertise-là. Et le vent aussi, pour nous, ça représentait l'énergie, le souffle. Ça représentait aussi tout l'oxygène des gens. Hein. C'est tout passe aussi par l'air et le vent. Et autant que le vent peut être un élément très réconfortant, très inspirant, très méditatif. Le vent peut être aussi très destructeur, en fait. Hein. On n'a pas réussi à contrôler le vent là, lorsqu'il commence à être en colère. Et donc, pour nous, on se disait que déjà le vent, avant même de travailler sur notre installation, reliait déjà tous les continents. Et si on part même du principe d'un battement d'ailes au Chili, qui est répercuté jusqu'en Amérique et voire même jusqu'ici en Europe, le vent nous semblait vraiment tout à fait approprié. Donc, ce qu'on a fait, en fin de compte, c'est qu'on a choisi 4 villes. Ces villes-là sont modulaires, en fin de compte, à chaque lieu où on peut installer l'installation, on pourrait choisir différentes villes. Pour l'instant, on a choisi Nantes, Montréal, Québec et Rennes parce que ça a été les 4 villes qui, au départ, ont cru en notre projet, les 4 festivals de ces villes-là qui ont investi dans le projet. Donc, un peu comme pour retourner l'appareil, on fait la tournée de ces villes-là. On était à l'autre côté de l'Atlantique au printemps. On a traversé avec le container les 4 grosses bêtes ici en Europe. Et on retourne au Québec pour les moins 40 au mois de janvier. Mais en fait, c'est qu'on a installé un capteur de vent dans chacune de ces villes-là. Et chaque capteur de vent est relié à un diffuseur. À un diffuseur qui a 5 mètres de long, qui est sur une base rotative, qui est ancré au sol parce que le diffuseur lui-même est presque un capteur de vent, dans le sens que s'il y a une prise de vent dans ce diffuseur-là, il pourrait s'envoler, donc il a fallu bien l'ancrer au sol. Mais chaque diffuseur, donc, tourne exactement au même moment qu'il y a une bourrasque de vent dans la ville de qui lui est assigné. Donc, par exemple, si à Montréal, là, il y a juste un petit soufflement de vent, exactement ici, au même moment, à Rennes, le diffuseur va commencer à tourner. On a fait pour la sonorisation, on a travaillé aussi assez fort pour développer un logiciel qui un peu fonctionne. L'image qu'on s'est donnée, en fait, on s'est dit, OK, si le vent ou l'air déplace des particules, est-ce qu'on pourrait créer un émetteur de particules sonores, mais qui serait contrôlé, c'est-à-dire que son impulsion, sa force serait contrôlée par la force du vent de la ville. Donc, ce qui arrive, c'est que le capteur envoie tout le data dans un cloud on emmagasine toutes les données dans le cloud. Et ici, à Rennes, on a un conteneur avec toute la technique, les ordinateurs, et on reçoit le data, mais qui est brut, en fait, hein, qui est juste des chiffres, des modulations. Et ces modulations-là se divisent en deux. La première partie s'en va d'un logiciel pour contrôler, évidemment, la rotation et tout ça. Et la deuxième partie s'en va dans un émetteur de particules sonores. Donc, tous les sons qui sont créés sont des sons artificiels. C'est-à-dire que c'est pas... Il y a certaines personnes qui me demandaient, avez-vous un clavier? Y a-t-il des notes de choisi? Non, c'est de la physique sonore, en fin de compte. Et l'émetteur de particules, donc, s'excite. Plus il y a de vent, plus il y a des particules sonores qui s'excitent, qui s'entrechoquent, qui font des overtones, qui vont nous donner des modulations et des fréquences harmoniques plus complexes. Et on a pu le voir un peu tantôt. Et à Nantes aussi, il y a deux semaines, il ventait très fort. Les sons deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus agressants, parce qu'aussi, on voulait être connecté avec l'image qu'on se fait du vent qui s'élève. Donc, plus le vent s'élève, plus on sent un danger. Mm-hmm. Et donc, cet émetteur-là aussi réagit de cette façon-là.
Mais Herman Colgan, la question que vous posent les passants, on demande s'il y a un clavier, si vous en jouez... Et d'autant plus légitime que vous dites que ce sont des sons harmoniques. Donc vous transformez les datas qui vous parviennent des différents capteurs de part et d'autre de l'Atlantique, vous les traduisez dans une forme harmonique quand même. Il y a quand même le désir de faire qu'on ne soit pas totalement dans la dissonance.
Oui, c'est vrai. C'est surtout vrai en temps de vent calme, en fait, hein, parce que la dissonance commence à exister plus que le vent... Va s'élever. Mais en fait, oui, la façon qu'on a travaillé dans cet émetteur de particules-là, c'est qu'on a une note de référence qui est variable, mais sur laquelle gravitent les particules. Donc, pour nous, c'était quand même important d'avoir un peu comme l'idée des superpositions d'overtones en musique, de garder cette idée-là, mais de le travailler plus au niveau des particules. Mais esthétiquement, au niveau sonore, il est important pour nous, on a fait beaucoup de recherches, mais d'arriver à un son qui, intuitivement, l'humain pourrait l'associer au vent. Parce qu'on aurait pu, avec des particules, vous en doutez, faire à peu près n'importe quoi, on est dans le domaine digital. On aurait pu faire plus que le son fasse « oui, mais pour moi, et dans tous mes travaux, la corrélation entre le concept et la représentation aussi, et la façon qu'on aborde c'est-à-dire l'auditeur, est très importante. Si on disconnecte un peu trop loin, parce que tout, pour moi, ça perd un peu de son sens. Fait que c'était vraiment important de sentir que malgré que c'est un calcul mathématique dont on n'a pas le contrôle, mais qu'on lui donne des balises et un paramètre qui se rapproche de ce qu'on pourrait imaginer d'énergie du vent, tu vois.
Créer une place dans la place, une place qui est librement traversée par les gens, qui sont souvent interpellés, intrigués par l'installation, mais vous créez un lieu et vous y installez l'écho d'autres lieux. Mm-hmm. Vous créez un lieu presque augmenté ou fantasmatique.
Ouais, tout à fait. C'est vrai ce que tu dis, tu me le fais remarquer en fait, parce que ce qui se passe, c'est que les gens s'en vont naturellement vers le centre et ça devient un nouvel environnement. Microcosmos à l'intérieur déjà d'une ville. Et j'imagine aussi que tout l'aspect sonore renforcit tout ça. Ça se fait une bulle un peu, parce que dès qu'on s'éloigne de ce micro-environnement-là, bien, tu t'éloignes du son. Donc, tu le sens très bien lorsque tu fais partie de ce tout-là. Et de même, je pense, de cette énergie-là, parce qu'on entend les structures bouger, on sent qu'on est à l'intérieur d'une chorégraphie, d'un mouvement, et on a le goût d'y être en plus, ouais.
Il y a une dimension dans Eautone qui rappelle un peu toutes les réflexions autour de la frontière, par exemple. Des villes dialoguent, là, et en plus à travers le vent qui est un élément qui se fiche, grosso modo, des frontières. Est-ce qu'il y aurait des versions à venir d'Eautone avec peut-être cette dimension-là géopolitique qui resterait à creuser? Vous dites que c'est une version bêta, en fait. Le début des Eautone.
Notre but, en fait, ultime, après avoir présenté dans ces quatre villes premières-là, ça serait vraiment d'aller chercher ramener une notion même historique et politique, c'est-à-dire de faire dialoguer, de faire chanter des villes qui auparavant n'étaient pas nécessairement en harmonie ou qui étaient en conflit. Et pour nous, ça, c'est très évocateur. On pourrait prendre comme exemple de prendre Hiroshima et New York, Washington, ou de prendre Paris, Berlin, Varsovie et Moscou. Et pour une fois, les faire. Dans le fond, on les met en harmonie, mais ce que je trouve beau là-dedans, c'est qu'on les force pas. C'est leur vent, c'est eux-mêmes. C'est pas comme si on écrirait une symphonie, disait nous, on écrit la symphonie rencontre de quatre villes. On les laisse parler, en fin de compte. Mais comme tu disais tantôt, étant donné que le vent, lui, se fout de la politique, se fout des frontières, en les laissant parler avec leur nature propre, leur dynamique propre, on va arriver à ce genre de quadralogue qui peut être historique, en fait. On pourrait même penser ultimement dans un rêve fou à la Corée du Sud et Corée du Nord, et donc aller mettre un capteur peut-être en catimini en Corée du Nord, parce que le capteur finalement il est très petit, mais raccordé, raccordé le Nord et le Sud au même endroit, ça pourrait être aussi intéressant. Mais ça, c'est sûr que c'est ultimement notre but de ajouter cette notion-là, de ne pas prendre nécessairement des villes au hasard, mais d'aller avec des villes qui ont une histoire et un vécu. Ouais.
Et voilà quelques perspectives pour cette installation pour Eautone, qui a vraiment été souhaitée par le festival maintenant à Rennes et par ses partenaires de l'autre côté de l'Atlantique. Eautone donc qui devrait bouger, à commencer par Québec. On pourra retrouver les quatre grosses bêtes, comme disent David Letellier et Herman Colgan, à savoir les quatre trompes, les quatre cornes pivotantes. On pourra les retrouver donc à Québec dans le cadre du festival Le Mois Multi. Ce sera en février. Eautone en emporte le vent. comme souvent dans l'atelier du son sur France Culture, on termine par une histoire vraie de son, une histoire vécue, et parfois plusieurs en une, dont le son est le héros. Ce soir, c'est le guitariste libre David Fenech qui nous raconte une histoire de son qui est aussi une histoire d'oiseau, oiseau avec un X, David Fenech.
Il était une fois le son d'un oiseau. Il y avait un pigeon sur mon balcon qui roucoulait quasiment toutes les heures, la nuit, le matin, et je me réveillais avec des rou, rou, ce son un petit peu comme un rythme, mais en même temps tellement doux qu'on pourrait presque penser à des basses de piano, une espèce de berceuse aussi. Et je ne me rendais pas compte, en fait, au bout d'un moment, que ce son était intégré dans mon appartement, que le pigeon était dans ma musique et dans mes enregistrements. Et c'est en les réécoutant au casque dans d'autres contextes que je me suis rendu compte que le pigeon était finalement le compositeur de certaines de mes musiques. Et à partir de ce moment-là, je me suis focalisé sur les oiseaux. Et dans tous les lieux où je suis allé, j'ai essayé d'aller à la rencontre des oiseaux pour leur parler, surtout pour qu'ils me parlent et écouter ce qu'ils avaient à me dire, parce que les oiseaux sont, comme chacun sait, de très très grands musiciens. À Syracuse, j'ai tourné autour d'un arbre géant avec un microphone en perche à la tombée de la nuit. Entre 19h et 19h30, les oiseaux se déchaînent et après ils s'arrêtent d'un seul coup. Il y a peut-être 3000 oiseaux qui d'un seul coup se mettent à chanter, à piailler. Et la place est ainsi faite qu'il y a une coursive qui permet d'accéder, un peu comme une spirale, accéder à la hauteur des oiseaux. Donc on peut quasiment les toucher avec le micro, passer en dessous de l'arbre, les avoir au-dessus, autour, sur le côté. Et là, j'ai fait une pièce avec juste cette captation de son. Et un peu plus tard, en Argentine, là je me suis marié il y a 2 ans avec la femme de ma vie, et je suis allé en Argentine, sur les hauts plateaux andins, en plein milieu d'une espèce de désert, comme un plateau. Les perroquets viennent à notre rencontre, des tout petits perroquets comme des perruches vertes, qui font une espèce de piaillement comme des violons. Alors, évidemment, je les ai enregistrés, j'amène toujours mon enregistreur avec moi. Et je les ai suivis et ils m'ont emmené dans un endroit qui était encore plus beau, où on voyait comme des arcs-en-ciel concentriques, comme des ronds les uns dans les autres, et j'avais jamais vu ça. Et je pense que ce sont les petits perroquets qui m'ont amené là. Tout ça pour en venir à ma plus grande expérience avec les oiseaux, et non pas avec les moteurs de la moto qui passent dans la rue. Ma plus grande expérience avec les oiseaux, c'est un concert que j'ai fait à Toulouse, dans un lieu où il faisait très très chaud. Ça devait être au mois de mai ou juin. On avait très 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 chaud. C'était une bibliothèque associative qui organisait des concerts. Je crois que ça s'appelle la médiathèque associative. Il y avait du monde assis, comme ça on pouvait pas trop bouger. Donc moi j'étais dans un petit coin de scène avec un violoncelliste, un saxophoniste et un clarinettiste. Et nous jouions, le principe du concert, c'était de jouer le moins fort possible, le plus en retenue possible. Arrive un oiseau, il se pose à la fenêtre et il nous regarde. Il écoute la musique, je sais qu'il écoute la musique. Il me regarde et il fait « piou », c'était un étourneau, je crois. Et il repart. On continue notre morceau qui se développe par mouvements assez lents, assez amples et surtout complètement en retenue. On pourrait entendre un oiseau voler. Arrive 3-4 oiseaux, ils se reposent sur le bord de la fenêtre comme sur un fil, comme dans les films d'Hitchcock à la fin des oiseaux, et ils nous regardent. Ça devient un peu inquiétant. La musique continue, piou piou piou, ils repartent. Le public remarque que je les ai remarqués. Ils commencent à regarder les oiseaux. Arrive une nuée d'oiseaux. Le morceau se termine comme par hasard à ce moment-là. Il y a une sorte de fade-out, c'est-à-dire de descente de son progressive de notre groupe, on joue de moins en moins fort, et nous quatre musiciens, nous regardons une nuée des tourneaux qui arrive. C'était entre chien et loup, on arrivait vraiment à la période au mois de juin où, donc ça devait être, je sais pas, 21h30, où la pénombre commence à arriver et la lumière est encore très belle, très blanche à Toulouse. Et là, une nuée des tourneaux se déchaîne, passe dans la. Et Nous fermons les mains, nous regardons les oiseaux. Et le public avec nous regarde les oiseaux, a compris qu'il ne fallait pas applaudir. Et je pense que les oiseaux ont terminé le concert, mais pendant, allez, je pense qu'au bas mot, on a dû les écouter une minute trente, voire deux minutes. Ça peut paraître une éternité, mais c'était un instant fantastique de communion. Je passais le relais aux oiseaux qui étaient là, et ils terminaient mon concert. Et donc, au bout d'un moment, les étourneaux sont partis. On a tous souri. Des gens ont applaudi. On a passé une bonne soirée. Et je pense que c'est peut-être l'une des histoires de son les plus magiques que j'ai jamais vécues, parce que j'ai toujours rêvé de jouer avec les oiseaux, avec les, par exemple avec les poules dans la basse-cour ou avec les dindons. Et là, j'en ai eu l'occasion fortuite, c'est-à-dire pas du tout provoquée. C'est quand on cherche pas les choses que les choses viennent à nous. Voilà.
C'était l'histoire de son de David Fenech, guitariste attentif aux oiseaux. Et c'est au milieu des oiseaux enregistrés par David Fenech à Syracuse qu'on signe la fin de l'émission. L'atelier du son est préparé et coordonné par Inès De Bruyne et réalisé par Véronique Lamondour. Au son ce soir, il y avait Julien Doumain et Romain Lenoir. L'atelier du son en ligne, c'est sur franceculture.fr avec les compléments, la réécoute, les podcasts et vos commentaires. Dans un instant, vous retrouvez Aurélie Charron. Bonne suite de nuit à vous sur France Culture. Et à vendredi prochain.
Merci Thomas, bonne suite de nuit à vous. Voilà ce que vous pourrez entendre dans les ateliers de la nuit la semaine qui suit. Mardi soir, vous pourrez vous faire un film dans l'atelier fiction. Mise en voix de deux scénarios de court-métrage écrits par deux jeunes réalisateurs, Yacine Badet et Mélanie Lalleux. C'est un partenariat avec le festival de court-métrage Paris Courdevant qui aura lieu du 24 au 30 novembre prochain. Ce sera ensuite une série, mercredi et jeudi soir, deux chapitres d'une même histoire. Dominique Méhens est parti en Finlande en poète, à l'écoute de la brume, de la nature, du chant des grues et de celui des corbeaux. Il tente, à travers le son des oiseaux, de trouver un nouveau langage, des nouveaux mots. Et c'est le départ de l'écriture, en plein milieu du paysage, en plein milieu du vent. La Hasse aux Brègues, chapitre 1 et chapitre 2. Vendredi soir, dans son atelier du son, Thomas Baumgartner sort du studio pour entrer dans l'appartement du critique littéraire, musicien de jazz, dessinateur, Francis Marmande. Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur, nous serons en direct de 23h jusqu'à minuit. N'oubliez pas que les ateliers de la nuit, ateliers fiction, ateliers de la création, ateliers du son, sont à réécouter et à podcaster, tout est sur le site internet de France Culture.